Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site. Les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animé par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent et de ceux qui le partagent depuis 2000.
Je me rappelle avoir dit une fois au président de mon syndicat que le jour où je verrai un grand cru classé, parce qu'ils ne sont pas toujours bons, hein, le sien par exemple, refusé d'agrément, je dirais oui, c'est un journée, mais effectivement, ça n'arrive jamais ça.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine, pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le Bon Grain de l'Ivresse.
Du chemin des dames vécu par son père jusqu'à nos jours, M. Philastre a quelques anecdotes à partager. Avec sagesse du haut de ses 83 ans, doté d'un regard critique, voire acerbe sur certains sujets, et d'une parole rare toujours ponctuée de mots justes, ce vigneron hors du commun est un personnage à part entière. Sensible et bienveillant, il parle de ce qu'il a vécu, ponctuant ses phrases de silence qui sont tout autant de vérités sous-entendues. Au cours de cet entretien à part, laissez-vous guider par une voix et une vision paysanne au service d'un seul objectif, faire du vin en respectant le millésime. Point. Vous n'entendrez pas de grands mots ni de grandes ambitions. Vous n'entendrez surtout pas parler de produits chimiques, mais seulement de la volonté de faire parler son hectare 32 de vignes au travers d'un vin d'une délicatesse et d'une élégance rare.
Bonjour Jean-François Philastre, merci de nous accueillir chez vous au domaine du Jaugaret. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement s'il vous plaît ?
À me présenter, non, ça je ne sais pas faire. Je suis en principe viticulteur et j'exploite... Une petite propriété familiale qui existe depuis deux ou trois siècles, je pense, voire plus, et sans prétention particulière. Voilà.
Cette vie professionnelle, c'est une deuxième vie professionnelle ? Vous avez une autre vie avant ?
Parce qu'à une époque, avant c'était mon père qui avait pris la suite de son père à lui. On était quatre enfants dans la famille, donc famille trop nombreuse pour pouvoir vivre sur la propriété. Donc tous les quatre, on a fait un métier différent. Puis à l'époque, dans les années 50, c'était pas le top non plus. Et moi, je me suis retrouvé à être souffleur de verre.
C'est un métier qui vous plaisait ?
Oui et non. La difficulté technique, bon, c'est un métier quand même qui est assez particulier, quoi. Parce que c'est pas un souffleur de verre de foire là où on fait des objets d'art. C'était industriel, donc travailler en 3-8, les rendements, le bruit, c'était assez horrible comme situation, quoi.
C'est l'usine, quoi, une vie d'ouvrier. Une vie d'ouvrier, c'était.
Une vie d'ouvrier, mais. Où on avait la possibilité de s'exprimer professionnellement c'était pas facile, quoi.
Vous revenez au domaine ici en 1983.
Alors il se trouve que bon, ça commençait à marcher mal dans ma boîte. Et puis ben, je me suis retrouvé à être libre quand mon père est décédé. Donc célibataire, sans enfant à nourrir. Qu'est-ce que je risque ? Je prends la suite, quoi. Et ben voilà, ça va faire 40 ans bientôt, quoi.
Vous êtes revenu avec enthousiasme ou c'était plus ouais, une bonne plus opportunité ?
Plus naturel, bon, histoire de... Parce que quand c'était mon père, bon, évidemment, on l'aidait pas mal. Mais bon, il faisait un sacré boulot, il a travaillé sur 90 ans, lui. Et... Donc, souffleur de verre, il n'y a pas des verreries à chaque coin de rue. Donc, c'était repartir ailleurs ou se faire une autre vie. Enfin, bon. Non, puis c'était continuer cette tradition familiale, quoi. C'est pour ça que j'accepte assez mal qu'on veuille me foutre dehors de chez moi, quoi, avec des réglementations à la noix, là. Je supporte pas trop.
Qui est-ce qui veut vous mettre en dehors de chez vous ?
Ah, ben, toute cette histoire de certifito, l'agrément, qu'on m'accorde quasiment plus. Le truc le plus basique, c'est le prix des terres, quoi. Quand mon père est décédé, ben, on a pu lui succéder assez facilement. Aujourd'hui, ça va être compliqué parce que ça a été multiplié, je crois, par 50 le prix des terres de la vigne.
Donc ça multiplie aussi le prix de la succession. Ça multiplie aussi le prix de la succession.
Eh ben, c'est le vrai problème, c'est qu'on ne peut plus assurer une succession, quoi.
Vous parlez d'agrément, là. Aujourd'hui, les vins que vous sortez, ils sont sous quelle appellation ?
Vins de France.
Jusqu'à enfin, dans les années passées, vous étiez encore en Saint-Julien ?
Oui, puis je suis théoriquement encore toujours, mais il y a cette histoire de dégustation, comme je vous disais tout à l'heure, où on se permet de vous juger, quoi. Donc, je me rappelle avoir dit une fois au président de mon syndicat que le jour où je verrai un grand cru classé, parce qu'ils ne sont pas toujours bons, hein, le sien, par exemple, refusait l'agrément, je dirais oui, c'est anonyme, effectivement. Ça n'arrive jamais, ça.
Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais là, donc, on est à Saint-Julien-de-Bechevel, en plein Médoc. Il y a des châteaux au nom ronflant, ou connus en tout cas, autour. Talbot, Branière-du-Cru, des noms des grands crus classés du Médoc.
Des noms prestigieux, effectivement.
Voilà, des noms prestigieux, merci. Et vous avez 1,32 hectare,
c'est ça ? 1,32 hectare, oui.
1,32 hectare au milieu de ces châteaux-là, quoi.
Voilà. Donc on a un peu le sentiment de gêner quelque part, un peu, quoi.
Qu'est-ce qui les gêne ? Parce que c'est des domaines qui sont très grands, qui ont une force commerciale énorme. Finalement, 1,32 hectare à côté de chez eux, c'est pas grand-chose.
C'est insignifiant. Et c'est ce que j'avais remarqué au départ, quoi. C'est qu'ils auraient souhaité sans doute que la commune de Saint-Julien soit uniquement des grands crus classés, quoi. Alors, on peut revenir aussi sur le classement des crus. Bon.
Allez-y, hein, si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute avec plaisir. Hein.
Non, mais historiquement, bon, finalement, c'était pas vraiment la qualité des produits, c'était les prix de vente qui servaient de base. Et bon, il devait y avoir à l'époque aussi quelques initiés qui étaient au courant de la chose et puis qui ont monté leur prix pour passer un cap supérieur, quoi. Hein. Et puis même de nos jours, bon, la dégustation correspond à pour une petite partie au classement des crus, comme on voit pour Saint-Émilion ou comme ça, quoi. Bon, le décorum, les léchés, la qualité de réception compte pour un grand pourcentage dans leur classement, quoi.
À Saint-Émilion, ils ont des critères qui sont quand même assez liés au, aussi au terroir et à la dégustation sur, sur 10 ans
Pas vraiment, je pense pas. D'ailleurs, il y a toujours des problèmes. C'est, le procès est encore en cours là, pour le dernier classement. Parce que j'ai l'impression que là aussi, quand ils montent d'un cran, c'est merveilleux, c'est bien. Et puis quand ils redescendent, ça va plus, quoi.
Est-ce que votre père a connu ce même sentiment de gêne aussi par rapport à ces mêmes grands crus qui étaient déjà là ?
Oh, sûrement. Oui, il a connu ça, oui. Mais pas au niveau que ça atteint maintenant, quoi. Là, justement, cette histoire de certifié d'eau, moi, je pense aussi à lui. Hein. À 90 ans, je ne vois pas prendre son vélo et aller à Blanquefort passer, écouter un technocrate qui veut lui expliquer comment il faut travailler sa vigne. Quoi. Hein. Alors, vous avez un vigneron, un Margot, là, qui en est à son 72e ou 73e millésime. Lui, c'est pareil, bon, il ne supporte pas ce genre de choses. Hein,
c'est le monsieur du Bel Air Marquis d'Aligre.
Ben évidemment. Non, mais un peu de respect pour ces gens-là, quoi. Voilà. Moi, j'ai aussi ce sentiment de respecter justement les anciens qui ont travaillé dur, qu'on méprise finalement en leur disant, ben voilà, c'est ça ou c'est ça, quoi. Bon, alors, je suppose que bon, il y a toujours des possibilités. Diverses, bon, des gens comme lui, je crois qu'il a un ouvrier qui lui a passé les certificats, donc il peut traiter sa vigne, je pense. D'autres ont trouvé, d'autres, ils sont pas plus d'accord que moi sur le principe, mais ils ont trouvé un moyen de. Alors moi je suis kamikaze, je pense pas qu'on soit très nombreux à agir comme ça. Mais. Si on accepte tout, voilà, on finira que, ben, au même endroit, hein, on sera bouffé par les autres, et puis voilà.
Qu'est-ce que ça vous empêche de faire, de ne pas être d'accord avec ce certifito, finalement ?
Ben, ça m'empêche que quand je vais chez le marchand de produits, bon, j'utilise uniquement la bouillie bordelaise, et des fois j'ai fait un traitement par an. Enfin, vraiment le minimum. Eh bien, le marchand de produits me dit non, je ne peux pas cette évito, je ne peux pas vendre un produit. Bon, si j'avais 30 ou 40 ans de moins, peut-être que j'aurais trouvé une formule pour pouvoir traiter, même modestement, mais pour pouvoir récolter quand même un peu. Là, bon, j'ai passé l'âge de ça, quoi.
Vous avez parlé un peu des anciens et du respect, du profond respect que vous semblez avoir pour eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ?
Oh ben, non, bon, on respecte ses ancêtres, ses prédécesseurs dans le métier. Il n'y a pas eu que des âges, hein. Il y a eu des sacrés pourris dans la profession. Il y en a encore et puis il y en aura toujours. C'est pour ça que des réglementations de ce genre-là, ça n'empêche, ça n'a aucun effet sur les tordus, quoi. Les magouilleurs, ils vont toujours magouiller. Hein. Et moi, ben, mais je n'accepte pas. Voilà.
Parlons un peu de vous, là, au lieu de parler des autres. Mais comment est-ce que vous envisagez la viticulture, le travail à la vigne ?
Ben. C'est pas facile, hein. Mais j'ai jamais touché un gramme de désherbant, ni des produits de synthèse et autres, je veux pas y toucher. Et après, il y a du travail physique, bon, il vaut mieux être jeune. Mais. Je disais à un client, bon, quand on est jeune, c'est jamais facile, mais on y arrive aisément. Puis au bout de quelques années, ben, ça devient dur. Encore quelques années, puis ça devient pénible. Puis encore quelques années, ben, ça fait mal. Et là, je suis au stade où ça fait très mal.
Justement, sur les produits phytosanitaires, là, l'âge d'or des produits phytosanitaires, c'était les années 60-70. C'est votre père qui a été confronté en premier à l'arrivée de ces produits de synthèse.
Ben, il a refusé, lui aussi. Ouais. Ouais.
Pourquoi il a refusé, lui ?
Ben, parce que, comme moi, il ne les sentait pas. Quoi. C'est pas respectueux de la nature. Bon, on s'aperçoit après, au bout de quelques années, qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas très longtemps, je voyais sur une revue là, un produit qui était miraculeux il y a 50 ans. Aujourd'hui, il est interdit. Je crois que c'est le... je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a 50 ans, c'était un produit miraculeux. Aujourd'hui, il est interdit. Quoi. Donc, il faut quand même pas mal de recul pour pouvoir juger de quelque chose. Et puis, il y a des risques du métier. Quoi. Bon, le gel, la grêle, c'est des risques tout à fait naturels que l'on respecte. Quoi. Par contre, la production zéro perte, ça n'existe pas. Quoi. Bon, il y a toujours toujours quelques problèmes. Bon. Et le problème, c'est que justement, beaucoup sont des propriétaires des grands crus, des grands châteaux, sont des industriels, ou des financiers, ou des sociétés multinationales. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le bénéfice maximum, quoi. Hein.
Et est-ce que, justement, cette composition des domaines-là, détenue par d'autres philosophies que celle paysanne, votre père aussi y était déjà confronté, ou c'est quelque chose qui est un peu plus récent ?
Oh, mais bien sûr qu'il a été confronté à ça. Mais mon père, bon, vous voyez son portrait, là, il a fait la guerre de 14. 4 ans dans les tranchées au chemin des dames. Bon, il a dû quand même souffrir à ce moment-là. Ben, c'est dans la souffrance qu'on ressent le plus de valeur, finalement. Quoi. Quand c'est facile, moi, j'ai repris la suite en 83. Quelque part, je me suis dit que c'était trop facile, quoi, parce que ça marchait bien. Il n'y avait pas les années noires des années 50-60, là où il y avait des années qui étaient vraiment pas terribles. Moi, j'ai trouvé ça presque trop facile, quoi, finalement. Ça, il y a eu une évolution qui fait que ça s'est pas arrangé dans le temps, quoi.
Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes revenu en 83 ?
Ben moi, à mon niveau, pas grand-chose. Par contre, bon, effectivement, il y a des... Enfin, ce que je reproche, c'est surtout l'arrivée de la chimie. Moi, je suis anti-chimie, des réfractaires à la chimie, quoi. Dans tout ce qui est alimentaire. Ça peut être très bien dans d'autres domaines, mais dans tout ce qui est alimentaire, moi, la chimie, je ne supporte pas. Et c'est là qu'il y a de plus de progrès, quoi, d'évolution. Et alors, bon, ben, on se met à y réfléchir. Alors certains croient, comme celui qui a inventé le certifié tôt, là, et ils s'imaginent sans doute qu'il a sauvé la planète. Bon.
Et dans vos vignes, qu'est-ce qui a changé depuis les années 80 ?
Oh, mais quasiment rien, quoi.
Ces dernières années, on parle beaucoup dans les vignes de changement climatique et de réchauffement climatique. Est-ce que vous avez constaté que le travail était différent ou que vos vignes réagissaient différemment depuis que vous êtes lancé en 1983 ?
Ben, ce qui a changé... Avant tout, c'est qu'elle crève, ma vigne. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je traitais finalement pas assez avant. j'avais réduit au maximum. Et le cuivre, qui est décrié aujourd'hui, c'est quand même un sacré traitement pour tout ce qui est maladie à champignons, quoi. Et là, il y a de l'esca, par exemple, que je peux plus traiter, que je traite plus depuis 6 ans. Et autant avant, quand je traitais pas beaucoup, j'avais de la mortalité déjà. Là, c'est l'hécatombe, quoi.
Donc vous avez beaucoup de manquants, de pieds qui meurent
dans les vignes. C'est l'horreur. Là.
C'est quoi, sur un cépage en particulier ou pas? Ou sur tous les cépages?
Moi, dans la vigne, c'est mélangé, les cépages. Donc, mais par contre, ce que je constate, c'est que les plants... Attendez le camion. Les plants modernes, certifiés, ceci, cela... Je me rends compte d'une chose, j'ai des vieux pieds qui ont plus de 100 ans, là, quand je les coupe en labourant ou autre, pour les arracher, il me faut un sacré travail. Là, un pied certifié extra aujourd'hui, quand j'en coupe un, 2 ans après, il ne reste plus rien, quoi. Alors c'est peut-être quand même un signe que c'est pas le top non plus.
Vous avez replanté de la vigne déjà? Ou tout date de votre père?
Ah non, mais on coupe toujours des pierres, labourant. Et puis il y en a qui meurent. Bon,
Mais vous avez renouvelé régulièrement?
Voilà, je renouvelais. Là, je ne le fais plus, là, parce que c'est pas possible. Mais effectivement, avant, je remplaçais les pieds manquants, quoi. Mais là, il y en a trop, là, c'est plus possible.
C'est dû à quoi, d'après vous, cette épidémie d'esca?
Le fait que j'ai aucun traitement pour ça, quoi. C'est un champignon, comme un mildiou. Ouais, donc, en traitant le mildiou, je traitais aussi ce genre de champignon. Et là, depuis que je ne traite plus, quoi, c'est l'hécatombe, quoi, ça, c'est évident. Il y a quand même un minimum de traitement à faire pour cette culture. Hein.
Passons un petit peu en cave. Vous avez une habitude de travail, vous faites des élevages assez longs. Qu'est-ce que vous cherchez par vos élevages?
Non, rien du tout. Je cherche à l'amener au bout. Et puis, à part la pastille de soufre que je brûle quand je fais un soutirage dans la barrique, ce qui fait un brouillard, le vin s'en imprègne un peu, mais c'est pas un traitement chimique vraiment. Et à part ça, des soutirages réguliers pour le nettoyer en quelque sorte. Et puis voilà. Alors ça me fait rigoler quand je vois les gens. Quel type de vin voulez-vous faire? Moi, j'en sais rien, moi. C'est quand il commence à couler après les écoulages que je vois ce qu'il va être, je présume. Mais finalement, j'ai aucune maîtrise particulière. Bon, le vin, il est ce qu'il est.
Et vous faites des élevages de 36 mois, en général, 3 ans, c'est ouais. Ça? C'était déjà ce que faisait votre père? Ou c'est vous qui êtes arrivé?
Non, j'ai rien inventé. Hein. Avant, il le gardait même 5 ans, je crois. Non, j'en parlais l'autre jour avec des Américaines qui étaient venues. Il y avait une fille qui était toute jeune, là, qui avait 14 ans. Et je lui ai fait goûter un vin qui venait être refusé à l'agrément, enfin, à journée plutôt. Et elle goûte, elle m'a dit, mais ce vin n'est pas pour être mis en bouteille. Ah, je lui dis, exactement. Moi, à 2 ans, je ne sens pas prêt à être mis en bouteille. Et les gars qui ont dégusté, s'ils m'avaient dit ça, qu'ils n'étaient pas prêts, tout à fait d'accord. Tandis que là, ils m'ont recalé pour je ne sais pas quoi. Alors la gamine, elle n'avait pas 12 ans, elle n'avait pas, 12 ou 14 ans, mais elle savait de quoi elle parlait finalement.
L'agrément dont vous parlez, c'est l'agrément d'appellation pour avoir le droit de mettre le nom Saint-Julien sur vos étiquettes, ce que vous avez fait pendant longtemps. Maintenant, vos vins, ils sont vins de France.
Vins de France.
Qu'est-ce qu'on vous reproche aux dégustations d'agrément? Parce que nous, on a goûté et on n'a pas très bien compris ce qu'on peut vous reprocher. Hein, mais voilà.
Il y en a un qui m'a mis une fois sur le commentaire « Retravaillez votre vin ».
Ça veut tout et rien dire, ça.
Ça veut dire aussi que va voir le chimiste et puis il va te dire ce qu'il faut faire. Je respecte particulièrement les millésimes. Et il y en a qui sont trompeurs, finalement, qui évoluent différemment que d'autres. Hein. Et puis, dans le temps, ils deviennent supérieurs à ceux que vous avez préférés au début, finalement. Hein. Puis ils sont tous différents, et puis c'est ça le charme des millésimes, c'est ça, quoi. C'est ce que je dis. Si vous devez aller, quand vous avez recevez des amis, si vous allez à la cave prendre une bouteille, les yeux fermés, la mettre sur la table, ça rime à rien. C'est quand vous avez des amis que vous connaissez bien, donc vous connaissez un peu les goûts, vous allez manger ça, vous choisissez votre vin. Et puis, si vous tombez juste, c'est l'extase, quoi. Pouvez-vous aussi vous tromper, mais le vin, c'est un peu dans la tête qui se prépare, finalement. Et suivant l'âge, il va être forcément un peu différent les uns des autres.
Vous, votre préférence, elle va vers quoi? Vers quel type de vin? Les vins plutôt jeunes, les vins plutôt évolués? Qu'est-ce qui vous plaît?
Moi, je fête mes anniversaires avec le vin de mon âge. Ça vaut ce que ça vaut, mais nous, on l'aime bien.
Donc c'est des vins encore fringants, du coup?
C'est buvable, tout à fait buvable. Et puis, il y a le côté affectif qui fait que, on apprécie. J'ai un frère qui est de 45. L'an dernier, on en a bu une bouteille, moi, qui m'a impressionné. Il était superbe, quoi.
C'était une bouteille du domaine? C'était une bouteille du vieux garage?
Forcément, oui. Oui, quand on est né, mon père avait mis à chacun sa barrique de côté, ce qui fait que on va pouvoir mourir avec... Voilà, la gaspille est pas mal quand même, pas dans notre jeunesse, mais on peut toujours fêter nos anniversaires avec le vin de notre âge.
Vous nous disiez tout à l'heure que quand vous étiez arrivé à la suite de votre père, c'était assez facile, selon vos termes.
Non, j'ai trouvé que par rapport à ce qu'il a vécu, lui,
d'accord,
que c'était quand même relativement facile.
Est-ce que déjà, à cette époque-là, votre père vendait tout ce qu'il faisait?
Ah oui, hélas. C'est qu'il y a des années, il vendait tout jusqu'à la dernière. Moi, j'ai un peu plus de place. J'essaye d'en garder un peu tous les ans, justement, pour témoignage. Et... lui, il avait moins de place, et donc il ne gardait pas trop, mais...
À qui c'était vendu? Plutôt à des amateurs, à des particuliers de toutes origines?
Beaucoup de particuliers, oui. Moi, j'en fais un peu à l'export, enfin pas mal. Mais j'en faisais, parce que j'en fais plus. Là. Je suis obligé de refuser. C'est... Quand on me dit à qui vous vendez votre vin, je dis à ceux qui m'en achètent, quoi, et c'est tout. Et bon. Alors j'ai des inconditionnels de mon vin, hein, d'autres qui n'aiment pas, je suppose. Hein, j'ai rien contre, chacun ses goûts. Hein, mais bon. Là, alors quand je parlais de la facilité, je pensais surtout au fait qu'il n'y avait pas eu d'année catastrophique, quoi. Et, au niveau de la récolte, il y avait des bonnes années quand même. Quand on écoute les grands spécialistes, c'est les années du siècle à chaque fois. Non, c'est pas vraiment ça, mais il y a eu quand même beaucoup de bonnes années, quoi. Alors que lui, pendant la guerre, après la guerre, les années 50, 60, il y a quand même des années qui étaient vraiment pourries, quoi. C'était pas le rêve. Hein.
Et c'était la seule activité de votre père, ou il faisait aussi d'autres cultures à côté, comme ça pouvait être un peu le cas dans ces décennies?
Il y a des gens qui me disent, mais vous faites que ça? Ben, venez le faire, vous allez voir, ça suffit. Ben oui, quand vous faites travailler conventionnellement, enfin, la terre, bon, si vous labourez, que vous faites les cavaillons, les tirer, tout ça, et pour un certain temps, vous passez avec un désherbant, en 2 heures, ça y est, c'est plié, quoi. Non, et puis quand on fait quelque chose, on le fait complètement, ou pas du tout, quoi. Bon, j'ai choisi de le faire, donc je le fais du mieux que je peux.
Qu'est-ce que vous avez pu faire évoluer par rapport à ce que faisait votre père, justement, que ce soit la vigne, au chai, ou...
Oui, hein.
Vous perpétuez le savoir familial?
Ben voilà, moi ce que je fais, c'est que j'ai... Mon seul mérite, c'est d'avoir beaucoup de rigueur, d'avoir fait les choses du mieux que je pouvais, sans souci d'économie ou autre. Ça s'arrête là, quoi. Le reste, il n'y a rien à inventer. Il y a des évolutions techniques, au niveau des travaux. Il y a du matériel, mais qui ne sont pas suffisamment aidés, finalement, les fabricants de matériel agricole. Et il y a, c'est sûr, des évolutions, quoi. Hein. Alors maintenant, bon, on refait tout. Il y en a qui labourent au cheval. Alors ça me fait un peu sourire, parce que, bon... Il laboure avec un cheval pour pas tasser la terre, tout ça. Puis tous les 10 jours, ils vont traiter avec des tracteurs qui pèsent 10 ou 12 tonnes avec 4000 litres de produits. Bon. C'est un peu amusant, quoi.
Vous travaillez comment? Vous avez un tracteur? Est-ce que vous travaillez la terre?
J'ai un tracteur qui est plus vieux que vous. Hein. Oh. Mais... À la fin, là, ça devenait difficile. Je pense que j'ai un peu lancé la chose. Je passais au rotofile. Mais là, ça devient dur aussi. Hein. Justement, il y en a un fabricant là, qui travaille, qui étudie un système avec... Parce que le rotofile, c'est merveilleux. Bon, ça abîme pas les pieds, ça coupe l'herbe qui est gênante. Alors, là aussi, ça change. Bon, évidemment, on s'aperçoit que labourer, retourner à la terre, c'est pas forcément bon tout le temps, quoi.
C'est ce que vous pensez, vous? Vous pensez que c'est pas bon de le faire tout le temps? Ou trop régulièrement?
Ben, voilà. C'est pas forcément la panacée, quoi. Il y a une vie sous la terre aussi, quoi. Hein.
Tout à l'heure, au chai, là, avant qu'on enregistre, on a discuté des derniers millésimes qui viennent de passer, qui ont été assez difficiles pour vous, notamment 21 et 2020.
Ah, ils ne sont pas difficiles,
inexistants.
Ils sont absents.
Ouais. Il y a eu 2019, vous avez eu des raisins, 2018, un petit peu, mais très peu.
Oui, très peu.
C'est quoi les grandes années qu'il y a eu ces dernières années, disons avant 2018?
La grande année depuis 45 ou 49. Il y en a eu des bonnes quand même. Mais c'était surtout 82. Puis après, bon, 89, c'est aussi très bien. 2005. Comme je vous disais, bon, il y a eu pas mal de bonnes années, quoi. Pas forcément exceptionnelles, mais très bonnes.
C'est quoi la caractéristique des bonnes années ou très bonnes années?
Ben, des vins qui tiennent la route, quoi. Bon, et qui évoluent très bien. Quoi.
Des vins qui tiennent la route, ça vient de quoi? C'est la qualité du raisin qui fait le bon vin?
Ben oui, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, quand les gens me disent tel millésime, ah, une merveille. Non, c'est les conditions climatiques de l'année qui font que ça fait ce vin-là, quoi. Hein, bon. comme je disais, une journaliste allemande, je lui dis, moi, mon boulot, c'est pas faire de conneries. Des quoi ? Des bêtises. Ah, bon ? J'ai rigolé. Et voilà, ça... restons-en. S'il y avait une histoire de millésime, de valeur des millésimes, c'était bien pour quelque chose. Maintenant, on veut faire des vins standards, comme le champagne, bon, on a toujours le même goût. Ça rime à quoi ? Alors, les deux seules choses que je respecte, c'est le millésime et le terroir, finalement. Bon.
Ici, c'est un bon terroir ? En tout cas, vos vignes, elles sont sur un beau terroir ?
C'est ce que je dis, c'est que si on a une certaine réputation, Saint-Julien, c'est que le terroir est bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas le détruire avec des produits chimiques qui foutent tout en l'air. Quoi. Comme je dis, moi, ma vigne, elle n'est pas belle, là, la crève. Donc. Mais s'il y avait un moyen d'analyser les sols, vous verriez que... Elle n'est pas vierge non plus, mais c'est quand même, elle n'est pas polluée comme d'autres.
Qu'est-ce que c'est un bon terroir, d'après vous ? Et qu'est-ce qui fait que celui de Saint-Julien, est, en particulier, est un bon terroir ?
Ah ben voilà, la question est là.
La question à 1000 euros, non, c'est ça ?
Ben oui. Pourquoi ? Bon, on nous dit que c'est des... la Garonne et puis la Dordogne qui ont ramené des sédiments, tout ça. Mais bon, vous suivez le chemin de la Gironde, et puis ça devient la Gironde après. Bon, il y a des communes juste avant nous où le terroir n'est pas si bon qu'ici. À quoi ça tient ?
Toute la question est là, quoi. À quoi ça tient ?
Ben voilà. Et ça, ça ne s'est pas fait un jour. Bon, si on a déterminé que Saint-Julien, c'était un bon terroir, il y a bien une raison, quoi, qu'on n'explique pas. Et heureusement, on n'explique pas tout.
Vous nous avez dit que pour votre anniversaire, vous buviez le vin de, enfin, votre vin de votre année de naissance. J'imagine que le reste de l'année, vous buvez d'autres vins. Qu'est-ce que vous aimez boire, à part le vin du Jaugaret ou les vins de Bordeaux ?
Oh, mon Dieu. Non, souvent, bon, on hérite une bouteille d'un grand cru quelconque ou de notre vin. Bon, ben, je prends la mienne de la même année et puis on compare. Mais je vous dis, bon, je suis pas objectif puisque moi je suis conditionné par le mien, quoi. Donc, mais bon, les vins du Médoc, des grands crus et autres. Ils sont loin de l'écraser, quoi.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre vin ? J'ai pas besoin que vous soyez objectif. Vraiment, ça m'intéresse pas. Je veux que vous soyez subjectif, justement. Qu'est-ce que vous aimez dans votre vin ?
J'aime rien. J'aime pas l'eau, c'est tout. Donc, quand je mange, il faut boire un peu. Et le bois du vin, il passe bien, voilà.
Et dans les grands crus qu'il y a autour, là, il y en a qui vous plaisent ? Il y en a que vous avez bu où vous vous dites « Ouais, il se passe quelque chose ?»
Ben, il y en a qui ne sont pas vraiment à mon goût, effectivement. Ouais. Mais bon, je juge personne, moi. Mais enfin, des fois, on fait des repas, bon, il y a des grands vins. Autre. Je m'aperçois que la bouteille de chez moi, elle est vide. L'autre, non. Donc, je ne suis pas le seul à avoir des préférences, finalement.
Est-ce que vous avez pu goûter des vins d'autres régions et d'autres vignerons qui vous ont
oui.
Vachement plu, soit par les valeurs qu'il y a derrière, soit par la qualité du vin, soit pour plein de bonnes raisons ?
C'est différent. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas bons. Hein. Ils sont sûrement très bons. Je vous dis, je m'attache davantage aux séquelles. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un repas classique qui passe généralement bien chez nous, où je n'avais pas bu de mon vin, j'avais bu un autre vin, pourtant du Médoc. Le lendemain, ce n'était pas ça, quoi. Et oui, comme je vous disais, bon, il y a des tas de gens qui m'amènent, vous goûterez ça, vous goûterez ça. Il y en a un qui m'a amené une fois du vin jaune. Quelle horreur! Oh là là! Il paraît que c'est bon pour faire la cuisine, mais ça s'arrête là pour moi. Ou alors je suis peut-être tombé sur de mauvaises bouteilles. Bon, mais comme je dis, quand je vois quelqu'un qui boit de la suze, moi ça me fait graisser les dents, quoi. Et il y a des gens qui aiment la suze et qui aiment aussi mon vin. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça la nature. Et bon, tous les goûts sont dans la nature. C'est pour ça que pour moi, la seule chose qui est importante, c'est la qualité du produit, quoi. Aucune chimie ni quoi que ce soit dans un produit, dans la première qualité, et d'être naturel.
Est-ce que ça vous arrive d'échanger avec des vignerons de la région? Je pense notamment au monsieur du Bel Air Marquis d'Aligre.
Non, mais Jean-Pierre Boyer, c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout. Et mes clients sont aussi souvent clients chez lui, là. Et bon, un jour, il y en a un qui voulait organiser une rencontre. Ah, faut que vous connaissiez. Non, bon, non. Ben. Puis un jour, je vais faire analyser un vin au laboratoire. Puis il y a un petit bonhomme à côté, là, qui faisait aussi analyser. Puis il fallait remplir un papier, c'était pour l'exportation. Vous ne voulez pas le faire, qu'il dit au laborantin. Oh, si vous voulez, oui. Alors, monsieur Boyer, je le regarde, je dis, vous êtes Jean-Pierre Boyer? Oui. Moi, je m'appelle Filastre. Oh, mais tout le monde me parle de vous. Eh bien, moi aussi, il fallait rester trois quarts d'heure après à parler sur le parking. Donc, je le connais maintenant. Mais c'est un personnage, quoi. Bon. Mais à part ça, bon, je ne cherche pas de rencontre particulière. Bon, y a quelques jeunes qui sont pleins de bonne volonté, qui j'espère, n'auront pas trop de problèmes. Mais je suis, comment dire, je suis pour que les choses se fassent naturellement, quoi. Je ne cherche pas à les provoquer ni quoi que ce soit. Bon, chacun fait à sa façon. Je ne juge personne. Il y en a qui font bien différemment de moi. C'est leur choix, mais
Parmi les jeunes, est-ce qu'il y en a qui viennent solliciter votre savoir, votre savoir-faire?
Mais justement, je n'ai pas de savoir. Je suis que de la rigueur, je fais des choses comme... Mais évidemment, pour quelqu'un qui peut dans la partie, c'est sûr qu'il y a des choses à apprendre un peu, mais je fais des choses naturellement, quoi, sans jamais céder à la facilité ou à quelque chose. Voilà, je fais des choses comme il doit se faire.
Donc vous faites tous les ans à peu près la même chose, au même moment Vous avez une recette un petit peu, c'est ça? C'est un vrai... Ça, tout est dans la rigueur.
Non, voilà, il y a un ordre de choses à faire. Pour... Et puis, ben, il faut rester dans les normes, quoi.
Quand vous êtes revenu au domaine, c'était après le décès de votre père. Qui est-ce qui vous a transmis ce savoir-faire et cette rigueur? Est-ce que vous aviez déjà appris avec lui auparavant?
Ah, ben, tous les week-ends, j'étais là, quoi. Je travaillais à Bordeaux, là, dans la verrerie. Mais tous les week-ends, j'étais là. Les jours de grève, il y en avait un paquet dans cette boîte. J'étais là. On a appris avec lui, quoi. Mais mon autre frère aussi, mes autres frères, j'en ai deux. On est nés ici, quoi, finalement, quoi. Hein. Donc, c'est quelque chose de quasiment naturel, quoi.
Qu'est-ce que vous aimeriez dans les années à venir? Ou qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les années à venir?
Un bel enterrement, quoi.
Ce serait un peu dommage, non?
Bon,
ce serait un peu tôt?
Ouais, il y en a qui sont partis bien avant moi. Hein. Non, c'est déjà pas mal.
Bon, je vais vous poser notre dernière question traditionnelle, alors. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites aujourd'hui ?
Là aussi, moi, j'ai un client, une fois, une parisienne, qui était venu avec sa femme, a laissé sa carte PDG d'une société. Puis j'ai compris après que lui était PDG, mais la patronne, c'était sa femme. Puis alors, le poète, je me fais, une année, il arrive, il me dit, ah, et c'est beau l'amour de la vie, de travail. Oui, je dis, n'exagère rien, hein. On dit bien que la haine est proche de l'amour, c'est un sentiment. Et l'année d'après, il revient. Oh, et vous leur parlez au pied de vigne. Ça m'arrive, mais c'est rarement des mots tendres. Sa femme est épiade. J'aime pas les grandes phrases, les grands mots, tout ça. Il faut rester au niveau du sol, quoi, ça suffit. Et donc heureux, satisfait d'avoir tenu le coup, peut-être, oui. Mais autant à une époque, certaines contraintes ou certaines choses me stimulaient plutôt qu'autre chose. Là, c'est devenu un peu lourd, quoi. Donc l'avenir, on verra bien, mais je le vois pas très rose non plus, quoi.
Merci, Jean-François Filastre.
J'espère que vous en ferez bon usage.
Sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci.
Nous sommes sortis de cet entretien pas tout à fait comme nous y étions entrés. Avec le sentiment d'avoir touché à la fois la grande histoire de la région bordelaise, avec des vins qui dépassent l'entendement, et la petite histoire des êtres humains, avec leurs envies, leurs doutes, leurs obsessions et leurs joies. Bref, le sel de la vie. Merci Monsieur Filastre de nous avoir ouvert votre porte et de nous avoir accordé votre confiance pour cet entretien. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même, Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !